inédit de la Grande Guerre.
40 épisodes collectés par les archives départementales de la Côte d'Or
et lus par leur directeur, Édouard Bouillet.
Épisode 7.
Découverte.
Dans ses mémoires intitulées « Souvenirs et réflexions » et écrites bien après la Seconde Guerre mondiale, André Biteau, angevin, engagé volontaire en 1915, raconte le voyage ferroviaire vers le front depuis Angers. La guerre, pour bien des Français, est aussi une découverte de leur pays, doublée d'une surprise, car on ne dit jamais à la troupe où elle va exactement.
Pendant un moment, nous crûmes que nous allions à Salonique. Oh, nous nous réjouissions presque de cet enviable voyage, dans notre euphorie inconsciente. Nous prenions cela pour un voyage touristique, cependant que le front de Salonique n'est pas meilleur que le front français. Quand, à Saint-Caize, près de Nevers, nous déchantâmes, nous bifurquâmes vers le nord, au lieu de descendre sur Marseille. Adieu le voyage en Orient, au pays des merveilles, dont notre esprit, encore juvénile, se réjouissait. Ce fut quand même un charmant voyage, en wagon voyageur, s'il vous plaît. Je fis une partie de ce voyage dans une guérite de Cerfrin, ce qui était une fantaisie. Moi, qui n'avais jamais vu de montagne, je n'étais pas le seul d'ailleurs, je traversais dans cet habitacle les monts du Morvan. Le train serpentant autour de ces collines éveillait ma curiosité et l'aspect tout nouveau de ce genre de pays, pour moi qui, jusqu'à présent, ne connaissais que la plaine, me causait un véritable émerveillement. Je vis le Creusot et sa forêt de cheminées, la Bourgogne et ses vignes, dont les crus fameux s'étagent sur les coteaux de la large vallée de la Saône, Dijon et ses plantations de cassis, et, plus haut encore, une nouveauté, de belles houblonnières.
Dans l'esprit des poilus, même au loin, les travaux des champs sont bien présents. Charles Dorras, soldat du 57e territorial, écrit à sa mère, Madame Dorras Fleutot, à Œillet-sur-Saône, près de Talmay, le 5 juin 1915.
En voyant ici les beaux raisins qu'il y a sur les ceps, je me doutais bien que nos vignes doivent être belles, et c'est général. Mais ce qui sera malheureusement général aussi, c'est qu'on ne pourra pas leur donner les soins habituels. Au 57e, il y a beaucoup de vignerons de Saône-et-Loire et de la Côte d'Or qui, tous les jours, parlent de leurs vignes. Chez eux, ils n'ébourgeonnent pas. Ils prétendent, contrairement à chez nous, que cela est inutile avec greffes et directes. Mais ils ont une façon de tailler l'hiver qu'ils m'ont expliquée. Bof, nous verrons cela plus tard. Pour le moment, pour toi, c'est très ennuyeux pour faire le travail. C'était déjà pas facile pour moi. Donc, il faut prendre une résolution, aller au plus vite, sans s'inquiéter des petits détails et surtout de ce qu'on pourra en dire. Voici ce que je te conseille de faire si tu le peux. Ne pas les faire ébrousser. Alexis dira ce qu'il voudra, soit cependant qu'il fasse les coups d'air, mais ce serait ennuyeux pour estimer le prix du travail. Les faire attacher, rogner et piocher une fois seulement, ce sera assez, et le tout à grands coups. Voici la contenance de nos champs, au cas où tu ne la connaîtrais pas. Nos deux vignes ont ensemble 27 hares. Celle qui a été plantée par papa a 13 hares, la vieille que j'ai replantée 14 hares. Celle de ma tante a 14 hares également, et sa greffe 18, ce qui fait 32 en tout. Pour le prix de la façon, regarde donc sur mes agendas. Mes comptes avec Alexis Bergeret sont marqués, mais c'est bien rare que tu trouves à les faire en tâche. Enfin, prends des journées si tu peux, et après tout, quoi que ça fasse bien de la peine, surtout lorsqu'on voit de belles promesses de récolte, ne te tracasse pas pour ça, et surtout, ne te fatigue pas inutilement.